Bon réveil à tous, bienvenue, il est 6h.
On a testé des desserts, on a testé des techniques. Le vrai baptême du feu, ça va être ce midi à l'attaque.
Les équipes du Royal Monceau sont dans les starting blocks. Après plus d'un an sans clientèle, le Palace parisien rouvre ses portes tout à l'heure. Dans ce journal, c'est une information Europe 1. Emmanuel Macron va faire un geste financier vers les associations religieuses en difficulté à cause de la crise. Un duel Rassemblement National Parti Socialiste en Occitanie au second tour des élections régionales. C'est le résultat d'un sondage IFOP qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Et puis cette polémique en Finlande où les petits déjeuners de la première ministre deviennent une affaire politique.
À suivre la page des sports, Nadal et Djokovic attendus sur la terre battue de Roland-Garros aujourd'hui. Et mon invité inattendu sur le phénomène Lego, décidément indémodable. Mon invité inattendu qui restait un grand enfant. Vous verrez tout à l'heure à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était l'un des deux derniers palaces parisiens encore fermés avec le Shangri-La dans le 16e arrondissement de la capitale. Après 15 mois de fermeture, le Royal Monceau va rouvrir ses portes aujourd'hui. Les cuisiniers, les concierges, les gouvernantes, tout le monde est prêt. Nicolas Feldman a suivi les tout derniers préparatifs.
Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment éclatez-vous.
Devant le bar, Romain, le directeur de la restauration, passe en revue ses troupes, l'heure des dernières consignes avant la reprise.
J'ai pas perdu la main. On est tous à fond et on attend. Il y en a, ça fait 14 mois qu'ils n'étaient pas revenus à l'hôtel, donc ça fait du bien de voir de l'humain.
Une effervescence que l'on retrouve dans le restaurant. En salle, les pâtissiers dressent les desserts de la carte.
On a notre palais chocolat du Pérou, on a notre dessert à la fraise.
Le chef Quentin Lechat a rejoint le palace en début d'année.
On a testé des desserts, on a testé des techniques. Le vrai baptême du feu, ça va être ce midi à l'attaque.
Mais avec une capacité réduite de moitié, 45 places sur la terrasse, tout occupées aujourd'hui. La reprise s'annonce en revanche plus compliquée dans les étages. Seuls 10% des chambres sont réservées. Christophe Thomas, directeur du Royal Monceau.
Nous avons beaucoup de clients américains et de clients du Moyen-Orient. Nous pouvons miser peut-être de plus de clientèle européenne. Souvent, les gens ont une tendance à voyager dans des destinations après une crise qu'ils connaissent déjà. Donc nous pensons que nous aurons notre clientèle internationale très rapidement.
Et sachez que pour vous offrir une chambre dans ce palace, il vous en coûtera pour une nuit entre 850 et 27 000 euros.
Un reportage signé Nicolas Feldman. Ne parlez plus de variants anglais, sud-africains ou brésiliens du Covid, mais de variants alpha, bêta ou gamma. L'Organisation mondiale de la santé annonce sa décision d'utiliser des noms de lettres grecques pour le grand public. L'objectif est en fait de limiter les appellations discriminatoires qui faisaient référence au lieu où les premiers cas d'un variant avaient été détectés.
C'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Emmanuel Macron s'apprête à faire un geste fiscal envers les cultes.
Et alors qu'un malaise s'est installé depuis plusieurs mois autour du projet de loi sur le séparatisme, le chef de l'État va écrire aux responsables des différents cultes pour leur annoncer, Virginie Rivière, c'est ce que vous nous dites, la hausse des déductions d'impôts des dons des fidèles.
Oui, aujourd'hui, lorsque vous donnez de l'argent aux associations religieuses loi 1905, vous bénéficiez d'une déduction fiscale de 66%. À compter de jeudi et jusqu'en décembre 2022, elle sera de 75%, mais il y a une limite, 554 euros. Un geste fait pour amortir les pertes liées à la crise sanitaire avec la fermeture des lieux de culte. Ces dons seront soumis au même régime que celui des associations caritatives type Resto du Cœur. L'idée avait été évoquée dès le mois de janvier lors des traditionnels vœux à l'Élysée avec les représentants des grandes religions. Elle sera intégrée au projet de loi de finances rectificative présenté demain en Conseil des ministres. Un geste particulièrement bienvenu pour le judaïsme et le catholicisme. Ce sont eux qui enregistrent les pertes les plus importantes. Côté catholique, c'est 90 millions d'euros en moins dans les caisses en 2020. Les protestants ont moins perdu. C'est finalement l'islam qui en bénéficiera le moins, car les associations musulmanes sont peu à être sous le statut association loi 1905.
Information de Virginie Riva, spécialiste religion d'Europe 1. Attention, à compter d'aujourd'hui, si votre véhicule possède une vignette critère 4 ou plus, vous ne pourrez plus circuler dans une large zone du Grand Paris. Interdiction de rouler en semaine entre 8h et 20h dans le périmètre délimité par l'A86 sous peine d'une amende de 68 euros.
Les élections régionales et départementales, nous sommes à un peu moins de 3 semaines maintenant du premier tour. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'Occitanie.
RN versus PS à l'issue de ce premier tour, selon les résultats d'un sondage IFOP pour Europe 1 et La Tribune. Écoutez les précisions de Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP.
Le rapport de force électorale en région Occitanie se résume à un duel entre le Rassemblement national et Carole Delga, la sortante socialiste. Avantage au premier tour pour la liste RN de Jean-Paul Garot, 30%, mais c'est un avantage faible. C'est une des rares régions où le RN recule par rapport à 2015. Quand Mialio en 2015 avait une avance de 10 points sur Carole Delga, l'avance n'est que de 4 points. Les autres forces peinent à exister. 13% pour la majorité présidentielle, 14% seulement pour Aurélien Pradier et la droite. Ça devient une région très compliquée, voire de conquête pour la droite, qui recule à chaque scrutin. Et clairement, la gauche tient le choc. Carole Delga, la sortante, qui est créditée d'un bon bilan, peut compter sur des réserves de voix de la France Insoumise et surtout Europe Écologie des Verts en cas de miné à 10%, ce qui fait des seconds tours assez nets, en quadrangulaire 37% pour Carole Delga contre 31% et surtout en triangulaire 40%. C'est une région que le PS peut espérer conserver.
Frédéric Dabi de l'IFOP, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. La fin de la trêve hivernale aujourd'hui, elle avait été prolongée de 2 mois en raison de la crise sanitaire. Les expulsions locatives peuvent donc reprendre à partir de ce mardi. Plus de 30 000 foyers sont menacés.
Europe 1. 6h06 sur Europe 1 dans un instant. Ce tollé en Finlande où la première ministre est pointée du doigt pour avoir financé ses petits déjeuners avec l'argent du public. On vous raconte ça. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h08 sur Europe 1, la suite du journal, Sophie Echen.
Elle était la plus jeune dirigeante de la planète lors de son arrivée au pouvoir en 2019 et jouissait jusqu'à présent d'une excellente popularité. Sanna Marin, la première ministre finlandaise, est en ce moment au cœur d'une polémique à cause de ses frais de petit déjeuner. Elle aurait utilisé l'argent public pour financer son café et ses viennoiseries du matin. Et dans ce pays très attaché à la transparence et à l'honnêteté de ses élus, eh bien la faire vire au scandale politique. Diane Berger.
300 € chaque mois, c'est ce que coûtent aux contribuables finlandais les petits déjeuners de Sanna Marin et sa famille. Or, selon la loi, la chef du gouvernement a bien droit à un logement de fonction. Son entretien, le chauffage, la décoration et le personnel sont financés par des fonds publics, mais rien n'est précisé pour les repas qui y sont pris. Vendredi dernier, la police a donc ouvert une enquête concernant ces petits déjeuners. Sur Twitter, la première ministre répond qu'elle est favorable justement à une clarification de ce point très précis du droit et elle est prête à prendre en charge elle-même ses repas. Mais ces déclarations ne suffisent pas à calmer la polémique, car ses services refusent de publier les factures détaillées de ses petits déjeuners. Officiellement, pour des raisons de sécurité, le magasin où sa famille se fournit serait identifiable. Mais cette décision passe mal dans un pays très attaché à la transparence en politique.
Diane Berger. Et puis en France, le coup d'envoi des Nuits de Fourvière ce soir à Lyon et jusqu'au 30 juillet. C'est l'un des plus gros festivals. 60 jours de spectacles, de danse, de cirque et de musique. Dans le respect bien sûr des gestes barrières et avec des jauges limitées. Au programme, entre autres, Benjamin Biolay, Azaf Avidan ou encore Jane Birkin.
Et Camille également, et on parlera de Camille tout à l'heure dans la partition d'Omblin Roche à 6h20, dans une petite dizaine de minutes. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h10. Le journal des sports, c'est avec vous, Lénaïque Monnier, et à la une, Naomi Osaka, qui a donc quitté Roland-Garros.
Oui, finalement, la jeune joueuse s'est laissée un peu déborder par cette situation qu'elle avait créée avec ce boycott de la presse pour, disait-elle, préserver sa santé mentale. Polémique un peu lourde pour la jeune fille de 23 ans qui a reconnu avoir vécu des épisodes dépressifs en 2018. Écoutez notre consultant, Cédric Pioline.
Elle n'a pas mesuré peut-être l'importance et la portée de son annonce il y a quelques jours et la réaction que ça a suscité. Donc elle a été un petit peu dépassée, je dirais, par les événements. C'est l'impression que ça donne avec ce retrait, parce que je ne pense pas qu'elle ait un problème physique ou quoi que ce soit. C'est peut-être qu'elle a... Elle se dit que ça va être trop de pression, elle n'assume pas. C'est difficile de parler évidemment en son nom. Est-ce que c'est une forme de fuite? Est-ce que c'est une forme de fierté? Voilà, un petit peu dépassé.
Le consultant d'Europe 1, Cédric Pioline avec Axel May. Pas de pause en tout cas pour Serena Williams qui a inauguré hier la session de nuit à 40 ans. À 40 ans, elle ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'il avait écrit sur ses chaussures. Pas d'arrêt immédiat non plus pour Roger Federer. Aujourd'hui, on suit l'entrée en lice de 3 favoris. Nadal, Djokovic et Barty. Un duel franco-français également entre Hugo Gaston et Richard Gasquet. Gaston, c'est lui qui avait animé l'automne avec un 8e de finale pour Auteuil.
Le foot à présent, J-1 avant le match France-Pays de Galles, premier match de préparation des Bleus à l'Euro.
Match qui se tient à Nice demain soir avec une attaque attendue, Griezmann, Benzema, Mbappé, mais reste à déterminer dans quel système Didier Deschamps les fera évoluer tous les trois. L'équipe de France qui compte par ailleurs 2 nouveaux membres, Stéphanie Frappard et Clément Turpin. Ils seront sur le terrain pour arbitrer pendant pendant la compétition et ils sont prêts. On écoute Clément Turpin.
Tout le monde a été sur la brèche. Tous mes collègues de Ligue 1 ont été sur la brèche. On a vécu une grande saison. Longue, et puis voilà, là il y a eu cette finale d'Europa League, et puis pratiquement quelques jours après, il faut arriver à switcher pour basculer sur l'Euro, mais on est prêt.
On est prêt, tout le monde est prêt, l'Euro c'est le 11 juin. Clément Turpin répondait à Julien Froment.
Les Jeux de Tokyo, ils sont critiqués au Japon, mais ça y est, les sportifs arrivent, une première équipe est arrivée sur place.
L'équipe australienne de softball, c'est ce dérivé du baseball très très populaire au Japon. Les joueuses, toutes vaccinées, ont débuté leur séjour par un test PCR. Le protocole sanitaire évidemment est très strict. Interdiction par exemple de quitter l'hôtel, sauf évidemment pour aller à l'entraînement.
Le journal des sports, signé Lénaïc Monnier, il est 6h13 sur Europe 1.
Europe 1.
On écoute le monde changer sur Europe 1 et avec la société. Ce sont aussi les jeux d'enfants qui changent, qui évoluent aussi avec par exemple ces Lego dévoilés à l'occasion du mois des fiertés des Lego aux couleurs arc-en-ciel représentant des personnages LGBT. Le phénomène Lego, phénomène mondial, on en parle avec mon invité inattendu ce matin. Bonjour.
Oui, bonjour. Je m'appelle Jérôme et je suis le créateur de Lego Goldman.
Bonjour à vous, Jérôme. Alors, Lego Goldman, je ne savais pas qu'il y avait un Lego à l'effigie de Jean-Jacques Goldman. Comme quoi, l'imagination n'a pas de limite. L'alter Lego, comme vous dites, de Jean-Jacques Goldman. Vous lui avez fait un réseau social à lui. Ça s'appelle Quand la brique est bonne. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Quand le phénomène Jean-Jacques Goldman rencontre le phénomène Lego, voilà, ça donne mon invité inattendu du jour. Jérôme, c'est donc vous qui avez créé le personnage de Jean-Jacques Goldman en version Lego. Pourquoi donc cette curieuse idée ?
Cette drôle d'idée, c'est parce que en fait, il y a une quinzaine d'années, Jean-Jacques Goldman a mis sa carrière entre parenthèses. De là est né Lego Goldman, celui qui assure l'intérim pendant que le vrai chanteur est en pause.
Et vous lui avez créé donc un site internet et un compte sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Quand la brique est bonne, voilà pour le clin d'œil. Qu'est-ce que vous imitez ? Des dizaines de photos, vous le mettez en scène. Il y a toutes les activités de Jean-Jacques Goldman, mais en version Lego.
En gros, c'est ça. Il fait sa petite vie comme le vrai. Il fait des chansons, il fait des albums, il fait un peu de tout.
Vous le faites partir en tournée aussi, j'ai vu ça ?
Oui. Un peu plus confidentiel que le vrai, mais effectivement, il a fait sa petite tournée.
D'où vous est venue cette passion pour les Lego ?
Ça, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Enfin, j'ai joué au Lego étant tout petit, donc c'est quelque chose qui est un peu resté avec les années. Et puis, j'allais dire, avec l'arrêt de la carrière de Jean-Jacques Goldman... C'est ce qui a été déclencheur.
Bon, vous êtes resté, on le voit, on le comprend, un grand enfant. Et il est au courant, Jean-Jacques Goldman, que vous avez fait ça ?
Oui, bien sûr. Après, l'idée, c'était quand même qu'il soit au courant. Rien que pour avoir son avis d'une et pas faire quelque chose qu'il aimerait pas ou qui serait pas en accord avec son avis
alors,
ou quoi que ce soit.
Comment il a réagi en voyant son personnage en version Lego ?
Mais écoutez, il a très bien réagi, hein. Il était très content, ça l'a bien fait marrer.
Et je vois qu'il vous a écrit.
Il a écrit plusieurs fois. À l'occasion de son clip, il lui avait répondu. Dernièrement, il a aussi postulé au poste de Jean-Jacques Goldman aux Enfoirés.
Ah oui, pour lui succéder.
Voilà, oui. Il fait comme le vrai, donc quand le vrai arrête les Enfoirés, le Lego prend la relève.
Et vous êtes suivi, il y a une communauté comme ça de fans qui vous suit sur les réseaux sociaux ?
Ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend des plateformes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite fanbase qui suit les aventures du Lego Goldman.
Bon, après, il y a les fans de Jean-Jacques Goldman et il y a les fans de Lego qui reste un phénomène assez colossal. Hein, Lego qui a fait plus 21% à travers le monde avec peut-être cet effet du confinement. On est revenu vers les jouets.
À mon avis, c'est un petit effet du confinement aussi parce que les gens avaient du coup du temps. Donc, ils se sont occupés comme ils ont pu. Et le Lego, c'est vraiment quelque chose qui occupe. En plus, ça peut occuper toute la famille. Et on peut s'amuser comme ça toute la journée à construire des petites choses assez rigolotes.
Voilà, et vous avez fait donc ce personnage avec sa guitare, bien sûr, Jean-Jacques Goldman sur scène, dans les clips aussi, parce que vous avez rejoué, retourné même vraiment une version Lego du clip Envole-moi, avec une vraie ambiance de concert et un sacré boulot de mise en scène. Ça plaira sans doute aux fans de Jean-Jacques Goldman qui iront sur votre compte Instagram quand la brique est bonne. Merci à vous, Jérôme.
Mais merci à vous. Merci.
À bientôt, bonne journée.
À bientôt, au revoir.
Il est 6h20 sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Et l'actualité ce matin, c'est ce chiffre, 2541 personnes qui ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine l'an dernier. Bilan le plus bas enregistré depuis 1945, mais le trafic avait beaucoup diminué, bien sûr à cause des différents confinements. L'ancien militaire traqué en Dordogne pendant plus de 24 heures par les gendarmes a été finalement neutralisé. Hier, grièvement touché à la gorge par un tir de riposte, il a été arrêté par le GIGN. Et puis le Conseil constitutionnel donne son feu vert au projet de passe sanitaire du gouvernement. Son usage sera limité aux grands rassemblements de plus de 1000 personnes, comme les festivals par exemple. Les débuts de Camille dans la partition d'Omblin Roche dans quelques secondes.
Europe 1.
6h23 sur Europe 1, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche avec une artiste ce matin, Omblin, qui fait partie de celles et ceux qui ont lancé le mouvement au début des années 2000, ce qu'on appelle la nouvelle scène française, grâce à une personnalité affirmée, un univers à part entière. Camille a surpris et enthousiasmé, même parfois déstabilisé, on va bien le dire, certains.
Oui, c'est vrai, la voix en vedette avec laquelle elle peut tout faire, Sébastien. Camille Dalmé, chanteuse fantasque, a le chic de faire swinguer les onomatopées, d'envoyer valser les notes, de faire sonner les mots écrits dans son carnet, qui ne la quitte jamais.
Camille grandit à Paris et baigne dans la musique et la littérature.
Son père est musicien, compose des chansons en amateur. Il écrira plus tard un livre sur François Truffaut. Sa mère est prof d'anglais. Voilà, Camille s'épanouit donc au sein d'une famille d'intellectuels cultivés. Elle pratique la danse classique et les week-ends sont bercés par des mélodies folk et soul des années 60 et 70.
Mais pourtant, elle ne se destine pas vraiment à une carrière de chanteuse.
Jusqu'à une révélation, c'est elle qui le raconte dans le magazine Elle. Camille a 16 ans et participe à un mariage. Ce jour-là, dit-elle, j'ai chanté un gospel et j'ai senti un appel presque mystique.
Attirée par la musique, Camille n'en néglige pas pour autant ses études.
Des études de lettres, les mots sont tout aussi importants que les notes. Après Hippocagne au lycée Henri IV, elle intègre Sciences Po à Paris. Sans problème, elle décroche son diplôme. Et c'est inédit, son premier album baptisé Le Sac des Filles est validé comme stage d'entreprise.
En revanche, le disque est peu remarqué, oui. Plutôt boudé par le public et par les critiques.
C'est vrai, mais il a le mérite de lui servir de rampe de lancement. Camille apparaît au même moment dans le film Les Morsures de l'Aube d'Antoine Decaune. Elle chante sur la bande originale, hein, La Vie et la Nuit. Elle participe au collectif Nouvelle Vague qui reprend à la mode bossa nova des classiques de la New Wave. Et elle prête sa voix à Jean-Louis Murat. En coulisses, la chanteuse s'apprête à souffler un vent de renouvelé sur la scène française. Et en février 2005, Camille sort son deuxième album, baptisé Le Fil, hein, comme le fil conducteur, cette note. C'est un si chanté tout au long du disque. Les 15 chansons sont unies par un bourdon comme un écho de didgeridoo. Le Fil est un album concept autour de la joie et de la douleur. Il est centré sur sa voix. Camille est accompagnée seulement par moments d'une contrebasse, d'un ordinateur ou d'un clavier qui savent se faire oublier. Le disque est enregistré à Birmingham, en Angleterre, la chanteuse. Mais le français à l'honneur, en écrivant dans ma langue maternelle, j'ai simplement eu envie de commencer par le plus difficile.
Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie. Je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur, je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui sauterre dans le tiède de tes reins?
Camille, sur Europe 1, extrait de l'album qui l'a fait connaître et qui lui a apporté le succès, c'était Le Fil, et c'était en 2005.
Et elle fait ce soir l'ouverture des Nuits de Fourvière à Lyon avec la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin. Camille présente son spectacle Alarm Clock.
Voilà, les Nuits de Fourvière jusqu'au 30 juillet à Lyon. La partition, signé Amblin Roche. 6h29, c'est à vous Laurent Cabrol pour cette journée vraiment estivale.
Oui, une journée estivale. Ce matin, sur nos cartes, il n'y a pas grand-chose, je dois dire. J'ai réussi, il y a du vent d'autant, 63 km/h, c'est tout ce que j'ai sur les cartes, les images satellites, il ne se passe rien, tout a l'air calme. Et cependant, ça va quand même bouger. Ça va bouger dans le sud. Alors, le soleil pour pratiquement tout le monde, soyons positifs. Il va faire 30 degrés à Tours, il va faire 29 degrés à Paris, à Nantes, à Bourges et à Rennes, 28 à Toulouse, à Bordeaux et Limoges, 27 à Lyon et Besançon, 26 à Marseille, à Caen et Nancy, à Roubaix et Belfort, 25, 24 à Saint-Brieuc. Vous voyez que ce sont les températures estivales, là-dessus, aucun problème. Le soleil sera là pour nous tous, et puis, dans le courant de la journée, progressivement, la zone orageuse va se manifester, elle va commencer à pointer le bout de ses éclairs sur l'Aquitaine, le Béarn, puis le Limousin, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées, tout cela dans l'après-midi, et le ciel sera menaçant sous le Poitou-Charente et la Loire-Atlantique. Nous aurons également des orages dans les Alpes. Voilà pour l'essentiel, mais ce n'est pas une journée totalement ensoleillé, vous l'avez compris, la zone orageuse ne fait que débuter en France.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Merci de votre fidélité à Europe 1. Tout de suite un nouveau journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30.
C'est pas simplement un projet parisien, c'est un projet qui va toucher tout le monde.
Tous les automobilistes vont jeter un coup d'œil ce matin à la vignette critère sur le pare-brise de leur voiture. Celles qui sont notées 4 sont désormais bannies en journée de 67 communes de la région parisienne. Dans ce journal, les avancées de la recherche scientifique sur la perte de l'odorat quand on est atteint du Covid. Et puis Alain Souchon, Louis Chédid, Mélodie Gardot. Le programme des Nuits de Fourvière, premier grand festival, a lancé la saison du déconfinement musical.
Après le journal, les éoliennes sont-elles vraiment écolo? Le mouvement de contestation prend de l'ampleur. Dernier épisode en date, cette tribune virulente signée Stéphane Bern. Alors quels sont les arguments des anti? Je reçois dans 10 minutes Fabien Bouglet, auteur d'une enquête à charge sur les éoliennes. Il dénonce un désastre écologique. Il vient nous présenter ses arguments.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
ZFE, ce sigle signifiant zone à faibles émissions, signifie surtout ce matin que les voitures diesel immatriculées avant 2006 ne peuvent plus circuler à l'intérieur du périmètre de l'A86 en Ile-de-France de 8h à 20h en semaine. D'autres ZFE sont prévus dans le pays avec d'autres calendriers. Mais déjà, Aurélien Fleureau, pour ce qui est de la région parisienne, est-ce qu'il faut s'attendre à des amendes dès aujourd'hui ?
Alors peut-être pas dès ce matin, mais cela pourrait arriver vite, hein, puisque d'ici à la fin de l'année, la vidéo-verbalisation doit être mise en place. 68 euros d'amende pour une première infraction. Et ce qui inquiète les automobilistes, c'est que l'accès va se restreindre de plus en plus. En 2022, ce seront les critères 3, soit près de 700 000 véhicules. Et puis en 2024, place aux critères 2, les diesels d'après 2011 et les essences de 2006 à 2010, soit 40% du parc automobile actuel. Plusieurs maires, Bobigny, Créteil, refusent ces ZFE. Et pour Mathieu Ségurant, délégué général de la Fédération de la distribution automobile, cela va forcément créer des inégalités.
C'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, d'aggravation des fractures territoriales et sociales. Comment est-ce que les propriétaires des véhicules non autorisés vont pouvoir venir travailler ? Beaucoup viennent de zones peu ou mal desservies par les transports en commun. Et nous, on est tout à fait pour le verdissement du parc. Mais si vous voulez, il y a une mise en place brutale des ZFE, mais dans 3 ans, c'est 45 ZFE qui seront créés. Hein. C'est pas simplement un projet parisien, c'est un projet qui va toucher tout le monde.
Et les professionnels concernés, les artisans notamment, demandent des dérogations et un assouplissement du calendrier, parce qu'à ce rythme, en 2024, 3 voitures sur 4 seront donc interdites de circulation dans les ZFE.
Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.
Venons-en aux bons chiffres sur le plan épidémique. De moins en moins de nouveaux cas de Covid, 9200 en moyenne chaque jour. Et de plus en plus de vaccinés.
Dont le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, il l'a annoncé hier soir sur Twitter, 25,7 millions de premières doses au total. Et la recherche semble progresser sur l'un des symptômes emblématiques de la maladie, l'anosmie, c'est-à-dire la perte de l'odorat, Victor Delande.
Alors, il faut d'abord rassurer les personnes qui auraient perdu l'odorat avec le Covid. Plus de 90% d'entre elles vont retrouver ce sens en quelques semaines. Mais pour les 10% restants, ce symptôme peut durer parfois plus d'un an. En suivant plusieurs patients atteints d'anosmie, Pierre-Marie Liédeau, chef de l'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur, a fini par trouver des traces du Covid nichées dans ce que l'on appelle l'épithélium olfactif, un organe situé dans les cavités nasales et qui permet de reconnaître les odeurs. Une avancée considérable qui entraîne beaucoup de nouvelles questions.
On ne sait pas encore si ce virus il continue à se répliquer, si en respirant, ces gens peuvent continuer à contaminer, par exemple. Et deuxièmement, sur le traitement, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais pu imaginer qu'il faille traiter l'organe sensoriel avec des antiviraux ou des anti-inflammatoires. Des mois après.
Ces recherches pourraient donc donner un coup d'accélérateur au développement de sprays antiviraux pour traiter ces patients. Enfin, ces chercheurs se demandent si les séquelles neurologiques de certains patients sont liées à cette perte de l'odorat. Un essai clinique vient d'être justement lancé pour trouver la réponse.
Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1, que retenir, que déduire de ces avancées scientifiques? Le neurobiologiste de l'Institut Pasteur, Gabriel Lépouzé, en direct tout à l'heure dans le tête-à-tête de Mathieu Béliard, ce sera à 7h40 sur Europe 1. C'était une promesse de campagne de la maire de Paris. Il y aura bien une police municipale dans la capitale, délibération prévue au Conseil de Paris qui a lieu cette semaine. Et on n'en sait plus sur ce que veut faire Anne Hidalgo, par ailleurs possible candidate à la présidentielle, de sa police municipale. Hélène Terzian.
C'est à la rentrée que les premiers agents municipaux devraient arriver sur le terrain. L'objectif, c'est qu'ils soient 5000 d'ici 5 ans. Répartis dans chaque arrondissement, ils auront pour mission de sécuriser l'espace public aux abords des écoles, des transports, des lieux touristiques, de sanctionner les auteurs d'incivilité, enfin d'assurer une mission de prévention. Cette police ne sera pas dotée d'armes létales, mais de défense, matraques, gilets pare-balles et caméras piétons. Formés dans une école spécialement créée, les agents recevront des formations complémentaires sur les violences faites aux femmes ou encore le harcèlement de rue. C'est une vraie belle police républicaine, résume-t-on dans l'entourage de la maire de Paris. Après avoir participé à la manifestation de soutien aux policiers, Anne Hidalgo veut incarner cette gauche qu'elle dit humaniste et républicaine. Dans une ville touchée de plein fouet par les attentats, la maire est très claire sur les questions de sécurité, martèle ses proches. Et tant pis, dit-on, si certains décident de ne pas y adhérer. Allusion à une gauche fracturée sur le sujet, qui est aujourd'hui l'un des thèmes prioritaires des Français pour 2022.
Le tennis, qualification facile de Roger Federer hier pour le deuxième tour de Roland-Garros 2021. Raphaël Nadal entre en lice aujourd'hui face à l'Australien Alexei Popirine. Retour à la fête et à la musique du côté de Lyon avec le début aujourd'hui de l'un des plus gros festivals de France, les Nuits de Fourvière, jusqu'au 30 juillet.
Les protocoles sanitaires seront stricts et précis. Mais ce matin, avec notre spécialiste musique Angèle Châtelier, on a surtout envie de parler de la programmation du festival.
On recommence, c'est la réouverture des spectacles. Et ça, c'est magnifique.
Dominique Delorme, directeur des Nuits de Fourvière, jubile. Aujourd'hui, c'est le top départ de 60 jours de spectacles de théâtre, de danse et de musique. D'Alain Souchon à Louis Chédid.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime.
Même si c'est pour la nuit, on prend quand même.
Alors oui, les jauges seront limitées. 35% de spectateurs jusqu'au 9 juin, deux fois plus ensuite, mais devant quelques artistes internationaux aussi, malgré les contraintes pour voyager.
On aura Mélodie Gardot qui sera là, qui est américaine. Asaf Avidan, chanteur israélien. On aura quand même un panorama international des arts de la scène aux Nuits de Fourvière.
Et une collaboration avec la Biennale de la Danse de Lyon. La danse qui est aussi au cœur du spectacle du DJ français Rhône, qui présentera mi-juin sa création avec le Ballet National de Marseille.
Il y a un effet un peu comme si on avait été congelé, que là, on, tout d'un coup, on reprenait là où on avait arrêté les choses. Et c'est super excitant.
Même si cette 75e édition des Nuits de Fourvière accueillera seulement 75 000 spectateurs en deux mois, soit trois fois moins que d'habitude. Jaloux du
soleil. Alain Souchon, Jaloux du soleil, ce sera donc aux Nuits de Fourvière. Pour le retour de la musique live sur scène, le début de la saison des festivals. François Geffrier pour le journal, il est 6h38. Europe 1. Y a-t-il un diktat des défenseurs des éoliennes? C'est ce que dénonce Stéphane Bern dans une tribune publiée hier par le Figaro. Il dénonce une supercherie, une énergie éolienne qui serait ni écologique, ni renouvelable et surtout qui détruirait notre patrimoine français. Bonjour Fabien Bouglet.
Bonjour Sébastien Krebs.
Bienvenue dans le studio d'Europe 1. Merci de nous rejoindre en direct ce matin. Ce qu'écrit Stéphane Bern, c'est aussi ce que vous dites et ce que vous avez publié dans une enquête, La face noire de la transition écologique, aux éditions du Rocher. On en parle dans quelques secondes et chacun pourra se faire son avis dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1, l'invité du 5-7 en direct ce matin est l'expert de l'éolien Fabien Bouglet. Alors je dis expert parce que vous avez publié une enquête assez fouillée sur le sujet, je l'ai cité, La face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher. Vous êtes, on va le dire tout de suite, engagé contre les éoliennes, comme Stéphane Bern donc, qui écrit dans le Figaro que ces éoliennes sont une supercherie, que l'éolien n'a rien d'écologique. C'est exactement aussi la thèse que vous défendez.
Bah oui, parce que en fait, si vous voulez, depuis quelques jours, Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, ne fait que diffuser des fake news. En particulier, le fait que les éoliennes vont décarboner notre pays. Il faut savoir que la France est un pays 80% décarboné. Et lorsqu'on a fermé Fessenheim, qui est donc la centrale nucléaire...
Décarbonée grâce au nucléaire.
Grâce au nucléaire et à l'hydraulique. Et lorsqu'on a fermé Fessenheim, on a perdu 2,2% de l'électricité nationale. Donc si vous remplacez une électricité décarbonée par une électricité décarbonée et intermittente, puisque les éoliennes sont intermittentes, eh bien vous ne procédez pas à une augmentation de la décarbonation. En pire, comme les éoliennes sont intermittentes, tout le monde aura constaté qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps, elles ont un facteur de charge de 25%, c'est-à-dire qu'elles ne produisent d'électricité que 25% de leur capacité maximale de production, on est obligé de compenser cette intermittence par l'utilisation d'usines au pétrole, au gaz ou même au charbon. Et d'ailleurs, hier, dans cette antenne, le président de Total, M. Pouyanné, vient à confirmer parfaitement en disant bah, « Écoutez, nous, Total, on se frotte les mains parce que les éoliennes vont permettre de développer notre business au gaz. »
Alors, d'ailleurs, Barbara Pompili répond à tout ça. Elle a organisé une conférence de presse vendredi dernier, justement pour répondre point par point à toutes les critiques qui émergent sur l'éolien. Elle explique que le réseau... est conçu pour gérer cette intermittence, qu'il va y avoir aussi des progrès, qu'on va pouvoir un jour ou l'autre stocker aussi l'énergie de ces éoliennes. Vous y croyez, stocker l'énergie des éoliennes, c'est possible?
C'est une technologie du futur. Avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, si vous voulez. On ne peut pas baser un réseau électrique comme celui de la France, qui est un pays industriel, qui a une consommation importante, avec des si et des hypothèses. Oui, on a vu la conférence de presse et les 22 pages, je suis obligé de faire 22 pages ineptes, qui ont d'ailleurs été critiqués sur Twitter par Jean Covici, qui est ingénieur spécialiste et qui démonte un à un les arguments du ministère de l'écologie. Je crois qu'aujourd'hui, le ministère de l'écologie est en panique, puisque tous les éléments d'information que nous diffusons sont vrais, ne peuvent pas être contestés, comme par exemple le fait que les éoliennes détruisent la biodiversité et conduisent au déchiquetage d'oiseaux. On a encore eu un exemple tout récent avec un oiseau très très rare qui a été déchiqueté et d'ailleurs dénoncé par les associations de défense des oiseaux.
L'immense majorité des ruraux refusent de voir leur environnement pollué par cette énergie inutile, coûteuse, non recyclable, dont les nuisances sont visuelles et sonores, qui ruinent la valeur de leur maison sans qu'ils puissent jamais rien dire. Voilà ce qu'écrit Stéphane Bern dans son réquisitoire. Derrière tout cela, il y a aussi une rupture entre Paris, les campagnes,
tout à fait,
les villes, les zones rurales.
Vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une politique qui est menée à Paris, boulevard Saint-Germain, dans les beaux quartiers, dans les quartiers bobos écolos, qui disent voilà, on va décarboner la France avec des éoliennes, mais en fait, qui délocalise la pollution de région parisienne dans les centres ruraux, dans la ruralité, dans le monde marin. Et derrière, c'est des milliers d'emplois de la pêche qui sont menacés, hein, puisque les éoliennes au large des côtes françaises, eh bien, sont dans les meilleures zones de pêche, du Tréport à Noirmoutier, de Dunkerque à Saint-Brieuc. Eh bien, là-bas, il y a une colère profonde. On a eu récemment des grandes manifestations. Il faut dire que le gouvernement n'est pas très malin. Il fait arrêter Julien Tréorel, le pêcheur meneur de la Fronde à Saint-Brieuc, et ils le font condamner à 8 mois de prison avec sursis. C'est simplement scandaleux. Donc évidemment, le monde de la pêche se réveille, ouais. Le monde de la ruralité se réveille, et Stéphane Bern, qui est au cœur et qui côtoie ce monde-là, eh bien, se fait le porte-voix dans cette tribune, et on remercie évidemment Stéphane Bern d'avoir publié cette tribune, parce que c'est un électrochoc aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que les manifestations ont lieu localement un peu partout en France, dans la Loire, à Saint-Brieuc, vous en parliez, dans la Vienne, dans l'Aisne, dans le Var. Et pour autant, on a entendu un changement de discours, non, au sein de l'exécutif. Emmanuel Macron, il y a quelques mois, disait le consensus sur l'éolien est en train de s'affaiblir, la capacité à le développer va devenir limitée. Vous sentez une sorte de début de rétropédalage ?
Alors, on a eu ce début de rétropédalage d'Emmanuel Macron, et puis en fait, les promoteurs éoliens, ils ont bénéficié d'une chose super, c'est le Covid. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu le Covid, là, Emmanuel Macron, 2 mois après sa déclaration à Pau, où il dit justement ce que vous dites, que le consensus s'éloigne sur l'éolien, eh bien, il promulgue le plan pluriannuel de l'énergie, où il annonce la multiplication par 2 du nombre de mâts. Et d'ailleurs, depuis 1 an et demi, il y a un tel harcèlement dans les campagnes que les maires ruraux commencent à être excédés par la présence des promoteurs éoliens qui viennent les harceler complètement. Et donc, cette particularité, ce phénomène fait qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de ras-le-bol à la fois des élus locaux, et d'ailleurs on le voit d'ailleurs, et je voudrais m'insurger contre le propos de Barbara Pompili qui consisterait à limiter la lutte anti-éolienne à l'extrême droite. Faut pas exagérer, Madame Pompili.
Il y a un aspect politique.
Voilà.
Le Rassemblement National en fait un sujet de campagne aujourd'hui.
Le Rassemblement National en fait un sujet de campagne, mais de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, là il y avait Lutte Ouvrière qui a fait un communiqué à Saint-Brieuc. Tout le monde est concerné. Il ne faut pas se voiler la face, Madame Pompili. Aujourd'hui, c'est toute la France qui est en colère. La France rurale et la France maritime, de toute tendance politique confondue. Et je crois que la tribune de Stéphane Bern le montre bien. C'est un sujet transversal et c'est un sujet aussi qui transcende la sociologie. Vous avez du gilet jaune au Châtelain et vous avez du marin au député.
En tout cas, ce sera un sujet de la campagne présidentielle.
Campagne présidentielle. Et en tout cas, moi, je vais faire un observatoire des candidats, et je suis en relation avec les différents candidats pour les convaincre que c'est une imposture et surtout que c'est un grave.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Bonjour Anis Hamida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour pourrait éteindre cette polémique autour des ampoules LED et de la lumière bleue qu'elles émettent, puisqu'on développe maintenant des LED qui ne diffusent quasiment plus de lumière bleue.
Oui, parce qu'il y aura toujours un petit peu de lumière bleue, hein, c'est normal. Toutes les lumières, même la lumière du soleil, émettent de la lumière bleue. Le problème avec les LED, c'est qu'elles sont conçues exclusivement à base de rayonnement bleu, parce que ce sont ceux qui se diffusent le plus et ceux qui produisent la plus grande quantité d'énergie. Alors, pour atténuer les effets, on triche, hein, on masque le bleu avec des filtres, du jaune, du rouge, pour obtenir une lumière blanche. Mais le rayonnement bleu de départ, lui, reste toujours présent. Et bien, des chercheurs de l'université Houston aux États-Unis ont mis au point un nouveau type d'ampoule LED qui fonctionne uniquement à base de violet. Donc, de la même façon, hein, ils ont ajouté des fils pour obtenir une belle lumière blanche, mais cette fois avec uniquement des rayonnements violets, moins nocifs que le bleu pour la fatigue oculaire, le trouble du sommeil ou les risques de DMLA.
Elle va coûter plus cher, cette ampoule, du coup ?
Et ben, c'est c'est tout l'enjeu. Les chercheurs sont en train de bien calibrer les matériaux pour arriver à parité de prix avec les LED bleus traditionnels. Et s'ils y arrivent, bah, ça pourrait tout changer. Hein. Vous l'avez dit, hein. Les ampoules LED pourraient perdre leur mauvaise réputation. On ne parlera plus que de leur qualité, économie d'énergie, durée de vie, fonctionnement à froid et illumination instantanée. Et j'en profite pour rappeler qu'il existe désormais un standard mondial défini avec des opticiens pour limiter la lumière bleue des écrans. Tout ça sans dénaturer les couleurs. Il s'agit du label A-Safe. Alors c'est nouveau, donc on ne trouve pas encore beaucoup d'appareils, mais pensez-y quand vous cherchez un téléviseur, un écran d'ordinateur, un téléphone, une tablette.
Pour travailler, on peut aussi mettre des verres anti-lumière bleue sur ses lunettes. Anissé Mbida pour l'innovation chaque matin. Merci à vous. Et à 6h52, nous ouvrons notre revue de presse internationale avec le réseau des correspondants d'Europe 1 partout dans le monde. On commence aux États-Unis avec vous, Sonia Dridi. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Washington ?
Eh bien, à la une aujourd'hui, le centenaire du massacre de Tulsa, l'un des épisodes les plus violents de l'histoire américaine. CNN parle d'un massacre horrible, enveloppé d'un silence assourdissant pendant des décennies. Le 31 mai 1921, Dick Rowland, un jeune homme noir, est accusé à tort d'avoir agressé une femme blanche. Pendant deux jours, des hordes d'hommes blancs en colère tue, pille et incendie le quartier afro-américain de Tulsa, surnommé le Wall Street Noir. Un quartier noir prospère a été réduit à néant par des émeutiers blancs, écrit le New York Times. Environ 300 afro-américains ont été tués. Tulsa a passé le siècle dernier à nier la terreur raciale qui s'y est déroulée, peut-on lire dans le Washington Post. Joe Biden se rend aujourd'hui dans cette ville de l'Oklahoma pour des cérémonies de commémoration.
Merci à vous. Sonia Dridi, depuis Washington, pour Europe 1. Nous allons en Chine à présent. Bonjour Sébastien Lebelzik.
Bonjour.
De quoi parle-t-on dans les médias à Pékin ?
Alors là, une de l'actualité aujourd'hui en Chine, des photos d'enfants, beaucoup d'enfants en première page. Il faut dire que c'est le 1er juin, la journée des enfants ici en Chine, mais c'est surtout l'annonce des mesures pour relancer la natalité dans le pays qui est reprise par tous les médias. Désormais, explique le quotidien du peuple, les Chinois peuvent avoir 3 enfants. 2, c'était déjà possible depuis 2016, mais cette fois, il faut accélérer, explique le Global Times. Faites des enfants pour aider l'économie chinoise, c'est en substance le message des journaux. Le Politburo qui s'est réuni hier à Pékin, le bureau politique du Parti communiste, ne s'est pas contenté de cette mesure, explique l'agence Chine Nouvelle. Il a aussi annoncé le report de l'âge de la retraite. Si la Chine compte 1,4 milliard d'habitants, rappelle le journal de Shanghai, elle compte aussi 17% de retraités et ce sera deux fois plus dans 20 ans.
Sébastien Lebelzik à Pékin et nous revenons en Europe, à Rome, précisément chez vous, Blandine Hugonnet. Bonjour.
Bonjour.
Dites-nous ce qui fait les gros titres en Italie.
Eh bien ici, ce sont de très lourdes condamnations pour pollution prononcées contre les anciens responsables de Ilva, l'énorme aciérie du sud de l'Italie, comme le rapporte la Stampa. Après un long procès avec 47 accusés et 1000 parties civiles, les anciens propriétaires ont été condamnés à des peines de 20 à 22 ans de prison. D'après il Fatto Quotidiano, le tribunal de Tarente a jugé que leurs 17 années de gestion de l'aciérie ont provoqué une véritable catastrophe environnementale. Ce site sidérurgique des Pouilles, qui était le plus gros producteur d'acier d'Europe, est aussi le plus dangereux, dénonce la presse locale. Ces émissions de dioxines cancérigènes sont responsables d'une mortalité record dans la région. Dans le Corriere de Tarente, le maire de la ville et les associations de défense de l'environnement saluent un verdict historique pour les innombrables victimes. Se pose désormais la question de maintenir ouverte une usine qui provoque la mort, estime la Repubblica, alors que l'État italien est justement en passe de nationaliser le site sidérurgique.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Merci à vous. Europe 1. 6h54 sur Europe 1, vous avez forcément déjà pris un billet de train. Est-ce que vous avez déjà demandé aux passagers autour de vous combien ils avaient payé leur billet ? Je suis sûr que personne n'a jamais payé le même prix et parfois c'est du simple au double. La SNCF va simplifier ses tarifs, on vous explique tout dès le début du 7-9 de Mathieu Béliard. C'est dans un instant, à tout de suite sur Europe 1. Il est 6h58 sur Europe 1. Très bonne journée. À demain pour le 5-7. Bonjour Mathieu Béliard.
Bonjour Sébastien Krebs. Merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin, depuis 5h tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 1er juin 2021. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Le monde a changé. On va vous le raconter. Et je vous le disais hier matin, la campagne officielle démarre cette semaine pour les régionales. Beaucoup de politique aujourd'hui. Zoom sur la région Centre-Val de Loire dans un tout petit instant que certains sondages donnent à l'extrême droite. Le RN en tête au premier tour. À 7h30, notre sondage en Occitanie Occitanie, la sortante socialiste Carole Delga en tête. Et puis à 8h, la fameuse région sud où Renaud Muselier présente son programme après le psychodrame sur la liste d'union avec des macronistes. Les républicains qui se cherchent, ceux qui se perdent, l'éternelle question des digues qui tiennent ou qui rompent entre droite et extrême droite. Guillaume Pelletier, le numéro 2 des républicains, recadré après avoir fait des propositions proches des idées du RN. C'est l'édito politique Nicolas Bétou à 7h50 et puis l'invité politique de la matinale, le patron des sénateurs LR, candidat à la présidentielle, Bruno Retailleau, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin. Voilà quelques éléments du programme. Il ne me reste qu'à saluer Laurent Cabrol, coucou, qui est avec nous pour la météo. Coucou, comme on dit Laurent Cabrol.
Oui, coucou, coucou. Bah oui, la météo, ma foi, pour l'instant, il ne se passe rien. Nous avons une France ensoleillée globalement, hein, avec des températures qui se situent actuellement entre 12 et 17 degrés. Vous voyez, 17 à Lyon, 15 à Paris, sont des températures très douces. Et puis, dans le courant de l'après-midi, les orages commenceront à se manifester. Ces orages vont nous casser les pieds tout au long de la semaine parce qu'ils ne vont pas nous quitter. Alors, de temps en temps à droite, de temps en temps à gauche, parfois au nord, parfois au sud. Enfin bref, aujourd'hui, ils vont concerner dans l'après-midi l'Aquitaine, le Béarn, progressivement le Limousin, l'Auvergne, le Midi-Pyrénées. En soirée, le ciel sera menaçant, mais pas trop orageux sur le Poitou-Charentes, la Loire-Atlantique. Bref, ce sont des orages qui sont plutôt dans le sud-ouest de la France, qui vont plutôt s'installer au fil des heures avec la chaleur. Et ces orages, demain, vont progresser vers le nord du pays. Hein, on les aura sur Paris demain soir, je pense. Alors, en ce qui concerne les températures maximales, elles sont à la hauteur de ce que je viens de dire. 25 à Belfort, 26 à Marseille, 27 à Lyon et Besançon, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Bourges, Rennes, Nantes, Paris, entre 28 et 29 et 30 degrés dans la vallée de la Loire.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changer.